Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons une nouvelle série intitulée « Le complot meurtrier contre Jésus ». Nous avons donc aujourd'hui la première étude sur ce thème, le complot meurtrier contre Jésus. En effet, qui a tué Jésus? Au cours des années, c'est communément sur les Juifs qu'on en a essentiellement rejeté la faute. Des zélotes mal avisés et des racistes haineux les ont souvent taxés d'assassins de Jésus. Malheureusement, des gens sectaires ont fréquemment justifié les crimes et les génocides commis contre les Juifs du fait que ceux-ci auraient tué Jésus. Aurait bien que ces pogroms aient parfois été exécutés au nom de Jésus, une telle bigoterie ne peut que amener des motifs sataniques et antichrétiens, et certainement pas d'un amour vraiment sincère pour Jésus-Christ. Dans un certain sens, toutefois, le Nouveau et l'Ancien Testament ont tous les deux raison de tenir le peuple d'Israël pour responsable de l'assassinat de son Messie. Rappelons-nous Ésaïe chapitre 49 verset 7, par exemple, qui parle ainsi du Saint, du Messie à venir, celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Quant à Ésaïe 53 verset 3, il décrit prophétiquement le mépris de la mésestime que le Messie allait susciter chez son propre peuple, qui allait, pour ainsi dire, détourner le visage au moment de sa mort. De même, le psaume 22, versets 7 à 9, décrit prophétiquement le traitement que lui feraient subir ses propres frères sur la croix. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, on peut lire que c'est au sein d'une assemblée secrète tenue par nul autre que ce fameux Caïphe, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, que le complot meurtrier contre Jésus a vu le jour. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et ils dirent: « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, le fameux Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt que un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. Notez Saint Jean, chapitre 11, verset 47 à 50, et le verset 53. Donc, cette assemblée à laquelle a clairement participé le Sanhédrin, soit les autorités qui gouvernent Israël à l'époque de Christ, est assurément à l'origine du complot. Et ceci dit, il est donc légitime d'avancer que la responsabilité du crime commis repose sur les chefs religieux et les autorités en place, mais aussi sur le peuple d'Israël. Notez Saint-Luc chapitre 23, verset 13. C'est d'ailleurs celui-ci qui s'est écrié « Crucifie, crucifie-le » lorsque Jésus s'est fait traîner en justice devant Pilate, verset 21. Et voilà pourquoi Pierre, s'adressant aux hommes israélites, eh bien, à Jérusalem, et encore le jour de la Pentecôte, Pierre déclare, « Vous l'avez crucifié, Christ, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Actes chapitre 2, versets 22 et 23. Mais les Juifs sont-ils plus à blâmer que d'autres pour la mort de Christ? Certainement pas, car après tout, c'est Ponce Pilate, ce gouverneur romain païen, qui l'a condamné à mort, agissant de convenance avec Hérode Antipas, qui bien qu'il porta le fameux titre de roi des Juifs, n'était même pas juif, mais plutôt Iduméen, donc un étranger que César avait intronisé et que les Juifs détestaient vraiment. De plus, la crucifixion constituait une méthode d'exécution absolument romaine, autorisée et adoptée par les autorités romaines et non pas par les Juifs. Ce sont donc des soldats romains qui ont cloué les mains et les pieds de Christ à la croix. C'est aussi une cohorte romaine qui a érigé la croix. Notez Saint Matthieu, chapitre 27, versets 27 à 35. Et une lance romaine qui a percé le côté de Jésus, selon Saint Jean, chapitre 19, verset 34. C'est donc dire que les non-juifs ont joué un rôle encore plus important que les juifs dans l'assassinat en tant que tel de Jésus. En fait, l'assassinat de Jésus émane d'un vaste complot auquel ont pris part Rome, Hérode, les non-juifs, les Sanhédrins juifs et le peuple d'Israël, divers groupes qui, en dehors de cet événement, s'accordaient rarement. Et vraiment, on ne peut pas dire qu'ils s'accordaient vraiment entre eux. D'ailleurs, il est significatif que la crucifixion de Christ soit le seul événement historique dans le cadre duquel toutes ces factions se sont alliées pour atteindre un objectif commun. Tous en sont donc coupables. Tous en portent donc collectivement la responsabilité. Les Juifs, en tant que peuple, ne sont ni plus ni moins à blâmer que les non-Juifs. Cela, une prière collective faite lors d'une assemblée de l'Église primitive le précise très clairement. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Actes chapitre 4, verset 27. Ainsi rien ne saurait justifier qu'on blâme un groupe en particulier pour la mort de Jésus. Il s'agit par définition d'un geste que l'humanité pécheresse a porté collectivement contre Dieu. Tous sont donc coupables ensemble. Mais même cela ne révèle pas toute la vérité sur l'identité de ceux qui ont tué Jésus. L'Écriture sainte souligne de la première page à la dernière le fait que Dieu lui-même a prononcé la mort de Christ. Dans l'Ancien Testament, notez Ésaïe, chapitre 53, renferme donc une des prophéties clés sur la crucifixion qui décrit d'abord la torture que le Messie allait subir aux mains d'une foule railleuse pour ensuite indiquer « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance » Ésaïe 53, verset 10. Dieu aurait-il donc mis à mort son propre fils? Eh bien, c'est précisément ce que enseigne l'Écriture sainte. Pourquoi? Eh bien, selon Ésaïe 53, verset 10, Dieu a voulu que sa vie serve de sacrifice pour le péché. Dieu visait donc la rédemption des pécheurs, tels que vous et moi. Les visées de ceux qui ont tué Jésus-Christ étaient entièrement meurtrières. Il ne saurait donc être question de les exonérer de leur méchanceté sous prétexte que celle de Dieu était bonne. C'est tout de même par la main des impies que Jésus est mort, Actes chapitre 2, verset 23. En l'assassinant, les couples ont commis le pire acte possible. La crucifixion n'est en rien moins perverse du fait que Dieu l'a souverainement décidé à des fins louables. Rien ne changera le fait qu'il s'agit d'un acte meurtrier tout à fait diabolique. Pourtant, c'est clairement le plan saint et souverain que Dieu a conçu avant même la fondation du monde. Notez Apocalypse chapitre 13, verset 8. Examinons de nouveau la prière de Actes chapitre 4, mais cette fois dans son contexte intégral. Actes chapitre 4, verset 24 à 28. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilote se sont donc ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et Actes chapitre 2 verset 23 rend d'ailleurs la même pensée. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Oui, Dieu a donc arrêté l'assassinat de Jésus. Ou, pour emprunter la formulation frappante de Ésaïe 53, verset 10, Cela a plu à l'Éternel de le briser. Alors, en quoi la mort de son fils a-t-elle pu plaire à Dieu? Il s'est réjoui de ce que la rédemption s'est accomplie. Il s'est réjoui de ce que son plan éternel de salut s'est ainsi réalisé. Il s'est réjoui du sacrifice de son fils qui est mort pour que d'autres aient la vie éternelle. Il s'est réjoui de pouvoir donner libre cours avec éclat à sa colère contre le péché. Il s'est réjoui de pouvoir démontrer son amour pour les pécheurs par un sacrifice aussi majestueux. Autant la crucifixion a impliqué le mal, autant elle a fait un bien infini. En fait, il s'agit de l'acte le plus pervers que des pécheurs ont pu commettre. Voyez-vous, le Fils parfaitement innocent de Dieu, le Dieu saint incarné, il s'est fait injustement tuer après avoir subi les pires tortures que des esprits malfaisants ont pu concevoir. C'est donc le pire mal parmi tous les maux, le pire geste que l'humanité dépravée pouvait poser, et l'action la plus vile qui a jamais été commise. Et pourtant, l'assassinat de Jésus a engendré le plus grand bien de tous les temps, la rédemption d'innombrables âmes et la démonstration de la gloire du Dieu Sauveur. Le mal que les meurtriers ont médité contre Christ, Dieu l'a changé en bien afin de sauver beaucoup de vies. Notez la Genèse chapitre 50, verset 20. La croix constitue donc la preuve suprême de la souveraineté parfaite de Dieu qui réalise toujours ses desseins en dépit des intentions malveillantes des pécheurs. Dieu accomplit même sa justice par les injustices des impies. Or, loin de faire porter à Dieu la responsabilité de leurs actes, cela démontre qu'il use de bonté dans tout ce qu'il fait et qu'il est en mesure de faire concourir, on peut bien le dire, toutes choses en bien, selon Romains chapitre 8, verset 28, même l'acte le plus pervers que les forces du mal aient jamais tramé. Par ailleurs, si Dieu était souverainement maître de la situation lorsque des meurtriers impies ont cloué son fils bien-aimé à la croix, pourquoi douter que Dieu demeure souverainement maître absolu, on peut bien le dire, de toute la situation, et cela même lorsque le mal qui a été commis serait moindre. Donc, par conséquent, la croix établit indubitablement la souveraineté absolue de Dieu. Le drame de la crucifixion, il débute dans Saint Matthieu, au chapitre 26, où le complot meurtrier se trame contre Jésus. En réalité, et d'une manière très importante, toute la vie de Christ a servi de prologue à cet instant-là. Il a condescendu à devenir un homme, le but même de mourir, selon Saint Jean chapitre 12, verset 27, notez Philippiens chapitre 2, verset 4 à 7, et Hébreux chapitre 2 verset 14. Devant Pilate, qui va le condamner à mort, Christ déclarera lui-même: « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Saint Jean chapitre 18 verset 37. Il a souvent évoqué l'heure de sa mort comme étant son heure ou son temps. Notez Saint Jean chapitre 2 verset 4 et chapitre, je crois, 7 verset 6, chapitre 8 verset 20, chapitre 12 verset 23 et chapitre 13 verset 1 du livre de Saint Jean. Donc, tout, absolument tout, dans sa vie, aura donc servi à le préparer à l'heure de sa mort. Jésus a souvent dit à ses disciples qu'il allait mourir aux mains de ceux qu'il haïssait. En effet, bien avant qu'il ne se rende pour la dernière fois à Jérusalem, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit: « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. » Saint Matthieu chapitre 17 verset 22 et 23, chapitre 16 verset 21 et le chapitre 20 verset 17 à 19 de Saint Matthieu. L'heure a maintenant sonné. Tout un enchaînement d'événements incontournables a maintenant cours et mènera à son assassinat. La dernière semaine de son ministère terrestre tire donc à sa fin. Christ vient d'achever son discours sur le mont des Oliviers, soit le grand serment prophétique rapporté dans Saint Matthieu chapitre 24 et le chapitre 25. Ses pensées tournent donc autour de sa mort. Et lorsque Jésus a eu achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » C'est Matthieu chapitre 26, versets 1 et 2. Il sait donc que son heure est venue. Le plan souverain de Dieu pour la rédemption des pécheurs est donc sur le point de se réaliser. Et bien que à l'heure même des impies soient en train de comploter, à cette heure-là, à comploter sa mort en secret, le Christ omniscient et souverain n'en ignore absolument rien, évidemment. Il y a quelques jours à peine, Jésus est entré triomphalement dans la ville sous une pluie de hosanna. Oui, tout le monde criait hosanna, que la foule déversait sur son passage. Aux disciples, à tout observateur, il semblait qu'un véritable raz-de-marée humain allait le transporter jusque sur le trône messianique. Mais voilà, Jésus savait pertinemment ce qu'il en était. L'opinion publique est si constant, on peut dire plutôt inconstant. C'est bien cela. Et de toute manière, la justice ne triomphera jamais grâce à l'opinion publique. Ce sont donc les miracles de Jésus qui attiraient les masses serviles, qui n'étaient pas prêtes du tout à admettre leurs péchés et à le reconnaître comme étant leur Seigneur. Il est tout à fait plausible qu'un grand nombre d'entre eux, qui l'ont acclamé au début de la semaine, comptent maintenant parmi ceux qui s'écrieront « Crucifie, crucifie-le » avant la fin de la semaine. Il n'en demeure pas moins que les chefs religieux, menacés par la population que Jésus semble avoir auprès des gens de Jérusalem, se sont donc réunis clandestinement pour décider de son sort. Voici à peu près la scène. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. C'est Matthieu chapitre 26, versets 3 à 5. Le terrible complot finira donc par se réaliser, mais uniquement parce qu'il est conforme au plan et à l'échéancier de Dieu. En fait, si l'assassinat de Jésus ne s'était inscrit dans le plan éternel de Dieu, il ne se serait jamais produit, comme le confirme ce que Jésus a dit de sa vie. Il avait dit « Personne ne me l'ôte », et je dis entre parenthèses « la vie », mais je la donne de moi-même. J'ai donc le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est donc l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Saint Jean, chapitre 10, verset 18. Pilate tentera de forcer Jésus à répondre des accusations qui pèse contre lui en faisant valoir sa propre autorité de gouverneur. On peut dire que Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai aussi le pouvoir de te relâcher ?» Saint Jean chapitre 19, verset 10. Ce à quoi Jésus répliquera « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Verset 11. De toute évidence, Dieu est parfaitement souverain dans tous les aspects de la situation ainsi que de cette situation. À plusieurs occasions déjà, divers ennemis de Christ ont cherché à le faire périr, mais ils en ont été divinement empêchés, car son heure n'était pas encore venue. La toute première tentative de meurtre contre lui s'est produite immédiatement après sa naissance. Ayant appris que le Messie était né à Bethléem, Hérode a alors fait massacrer tous les enfants mâles de cette ville et de tous les alentours. Mais un ange du Seigneur en a prévenu Joseph et la petite famille, et puis elle a pu se réfugier en Égypte, où elle est restée jusqu'à ce que leur vie ne soit plus menacé. Posant un des premiers gestes de son ministère terrestre, Christ a lu un passage du livre d'Ésaïe dans la synagogue de Nazareth. C'était son visage natal. Les gens se sont mis dans une telle colère lorsqu'il a déclaré être celui de qui le prophète avait écrit qu'ils l'ont entraîné hors de la ville jusqu'à la falaise d'où il prévoyait le précipiter, mais où il leur a échappé de manière surnaturelle. Saint Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Donc encore là, son heure n'était pas encore arrivée. Au cours de son ministère antérieur à Jérusalem, un jour de sabbat, Christ a guéri un paralytique à la piscine de Bethesda. Lorsque les chefs religieux lui ont demandé des comptes, Christ leur a répondu que puisque son Père était à l'œuvre, il devait l'être lui aussi. Saint Jean chapitre 5, verset 17. À ce sujet, Jean a écrit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore davantage à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Verset 18. Or, il ne fait aucun doute que plusieurs de ces chefs juifs comptent parmi ceux qui, on peut dire, qui trempent maintenant dans le complot de Caïphe. Lors de ce même ministère dans la ville sainte, la nouvelle que les chefs religieux cherchaient à tuer Jésus, elle s'est tellement répandue qu'on a fini par l'appeler celui qu'ils cherchent à faire mourir. Saint Jean chapitre 7, verset 25. Mais le fait que tout le monde savait que sa vie était en danger ne le décourageait en rien. Il a continué de parler si librement que les chefs religieux, intimidés par son audace, n'ont rien osé lui dire, à tel point que beaucoup de gens se demandaient si le Sanhédrin savait que Jésus était le Messie. Verset 26. Voyez-vous, même les huissiers chargés de l'arrêter, ayant trempé, on peut dire, tremblé en quelque sorte devant son courage, on peut bien dire cela, ils ont vraiment vu quelque chose d'exceptionnel, le courage de Jésus. Et ils ont expliqué aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens qui ont exigé de savoir pourquoi il ne s'était pas exécuté. Jamais homme n'avait parlé comme cet homme-là, est-il écrit dans Saint Jean chapitre 7, verset 46. Donc son heure n'avait toujours pas sonné. Or, jusqu'à ce qu'elle arrive, eh bien leur projet meurtrier ne pouvait réussir. Alors, lorsque son heure sera arrivée, il le saura. Aussi dira-t-il aux disciples, la nuit de son arrestation, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Saint Luc chapitre 22, verset 22. Voilà donc en quoi le complot que les ennemis de Jésus ont monté contre lui est parfaitement conforme au plan que Dieu s'est fixé de toute éternité. On voit donc maintenant que l'apôtre Jean met ce fait en évidence lorsqu'il rapporte les discussions privées des conspirateurs. Il se peut que Jean ait obtenu des détails sur les propos tenus lors de la rencontre par l'intermédiaire d'une personne qui aurait assisté à la machination du complot, probablement Nicodème, que l'apôtre identifie comme étant le chef des Juifs, Saint Jean, chapitre 3, verset 1, mais qui semble avoir secrètement sympathisé avec Jésus. Notez là aussi Saint Jean chapitre 7 verset 50 à 51, chapitre 19 verset 38 et 39. Donc Jean a indiqué que les chefs religieux craignaient que la popularité de Christ aurait dû auprès du peuple pousse ainsi celui-ci à exécuter des pressions pour le faire reconnaître comme étant le Messie et étant le chef légitime des Juifs. Or, cela aurait évidemment troublé la paix ténue, cette paix qu'ils entretenaient avec Rome, et ça aurait enflammé les Zélotes, faction politique dévoyée qui cherchait à renverser le gouvernement romain. Et cela, en revanche, aurait également menacé la position du souverain sacrificateur et du Sanhédrin qui exerçait un semblant d'autorité sur la société juive, surtout dans les affaires religieuses, avec la permission de Rome. Notez Saint Jean chapitre 11, verset 48. Les chefs religieux faisaient donc tout leur possible pour réprimer la ferveur messianique en Israël. De plus, Pilate réagissait déjà au fanatisme juif avec violence. Notez Saint Luc chapitre 13, verset 1. Les chefs religieux, étant juifs, en ont donc conclu qu'ils devaient faire taire Jésus et qu'il soit véritablement ou non le Messie. Il fallait donc le faire taire à tout prix. Le personnage principal de cette scène, c'était de nouveau ce fameux Caïphe, le souverain sacrificateur désigné pour l'année en cours. Et Caïphe était un opportuniste ambitieux et pragmatique. Conformément à la Sainte Bible, son sacerdoce lui vient, bien entendu, de son ascendance lévitique. Sous l'occupation romaine, toutefois, c'est Rome qui choisit et qui nomme les souverains sacrificateurs. Les preuves historiques suggèrent fortement que la fonction s'acquiert souvent à prix d'argent ou en échange d'une faveur politique. Caïphe avait épousé la fille de Anne, son prédécesseur, selon Saint Jean chapitre 18 verset 13. Anne exerce encore beaucoup de pouvoir par l'intermédiaire de son gendre, si bien que la fonction de souverain sacrificateur en est venue à constituer une sorte de sacerdoce conjoint. Saint Luc chapitre 3 verset 2. L'histoire indique que Caïphe est resté en poste plus de 20 ans. C'était une période extraordinairement longue quand on songe qu'au cours des 100 ans que a duré l'occupation romaine, eh bien tout de même 28 hommes ont servi de souverains sacrificateurs. Et en années 36 et 37 après Jésus-Christ, le gouverneur romain Vitellius a fini par démettre Caïphe de ses fonctions que son successeur n'a assumées qu'une cinquantaine de jours. Donc la longueur de son mandat suggère que Caïphe jouit singulièrement de la faveur de Rome. Il est certainement très corrompu et c'est sous son autorité que les changeurs exercent leur métier dans le temple, faisant assurément de lui un homme très riche. Or, étant donné que Christ a chassé deux fois les vendeurs du temple, selon saint Jean chapitre 2, verset 14 à 16, et saint Matthieu chapitre 21, verset 12 et 13, il n'y a rien d'étonnant à ce que Caïphe le haïsse terriblement. Caïphe, il est sadducéen. Il appartient donc à une secte aristocratique qui contrôle le temple à l'époque de Jésus. Adepte du libéralisme religieux et du matérialisme, les sadducéens niaient carrément la résurrection des morts, ainsi que l'existence du ciel, des anges et de tout élément surnaturel mentionné dans les Écritures saintes. Actes chapitre 23, verset 8. Ils interprètent la loi de Moïse au pied de la lettre, mais ils tendent à faire fi ou à minimiser l'importance du reste des Écritures. Ils s'opposent donc habituellement aux pharisiens, bien que les deux parties aient souvent comploté ensemble pour discréditer Christ, qui les a réduits au silence et les a même ridiculisés à chaque fois. Notez saint Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4, chapitre 22, versets 34 à 45, ainsi que saint Marc chapitre 12, versets 13 à 29. Ici, il s'associe donc à nouveau pour comploter sa mort. Et c'est de nouveau Caïphe qui a dit « Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Saint Jean, chapitre 11, verset 50. Or, bien que Caïphe ait parlé de faire mourir Jésus dans le but d'éliminer une menace politique, Jean a discerné le caractère prophétique de ses propos. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur de cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu qui sont dispersés. Versets 51 et 52. 2, on a dit saint Jean chapitre 11. Autrement dit, le mal que Caïphe et le Sanhédrin méditent, eh bien Dieu le changera en bien. Notez la Genèse chapitre 50, verset 20. Ils veulent donc tuer Jésus afin de sauver la nation d'une destruction immédiate et brutale de la part des Romains. Et quant à Dieu, il est prêt à sacrifier son fils afin de sauver aussi la nation, en fait, les gens de toutes les nations, mais de la condamnation éternelle que leur valent surtout leurs péchés. D'ailleurs, l'apôtre Jean tiendra quasiment les mêmes propos dans une épître ultérieure. Il est lui-même, est-il dit, une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Notez la première épître de saint Jean, chapitre 2, verset 2. Voilà donc en quoi les projets funestes de ces conspirateurs s'inscrivent précisément dans le plan éternel de Dieu, de même que dans l'échancier de Dieu. C'est évidemment la Pâque, c'est le jour où les agneaux sacrificiels sont immolés. Et Christ est justement l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Saint Jean chapitre 1, verset 29. Il est donc l'accomplissement divin de ce que la Pâque a toujours présagé. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Notez Ésaïe 53, verset 7, et Actes, chapitre 8, verset 32. On remarquera que les membres du Sanhédrin prévoient d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais, voilà, mais Dieu est Dieu. Et Caïphe n'est pas Dieu. Voyez-vous, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Que ce ne soit pas pendant la fête, c'est évident, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Notez Saint Matthieu chapitre 26, versets 4 et 5. De toute évidence, ils espèrent faire périr Jésus en douce. Et c'est pourquoi ils résoudront d'attendre que la Pâque soit passée, si possible, et que Jérusalem soit un peu moins bondée. Notons qu'ils n'agissent pas ainsi dans le but de préserver l'inviolabilité de la fête, puisque à l'époque on exécute souvent des criminels lors des festivités, précisément parce que les témoins sont plus nombreux à ces occasions-là. Mais, pour éviter que le public examine l'affaire de trop près, et surtout pour éviter de déclencher un tumulte dans la ville. Voilà donc qui révèle aussi la souveraineté qu'exerce Dieu sur les machinations des hommes. Les chefs religieux souhaitent donc d'éviter tout scandale public en ce jour de fête. Par contre, Dieu a planifié que Christ mourrait à la Pâque, de la manière la plus publique possible. N'oublions pas, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira toujours. Proverbe chapitre 19, verset 21. Et qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Lamentation chapitre 3, verset 37. Donc, Jérusalem est bondée de pèlerins provenant de tous les coins de l'Empire qui sont venus pour célébrer la Pâque. Pour une Pâque typique, l'historien Josephus estime qu'on immole alors à Jérusalem plus d'un quart de million d'agneaux sacrificiels. En moyenne, 10 personnes se partagent un agneau, ce qui laisse entendre que lors des festivités pascales, la population juive de la ville sainte peut atteindre environ 2,5 à 3 millions. Mais la Pâque, elle coïncide également avec son heure, c'est-à-dire l'heure que Dieu a choisie, l'heure qui convient parfaitement au moment où l'agneau de Dieu doit mourir pour les péchés du monde. Et au bout du compte, le complot se réalisera, on peut bien dire, conformément à l'échancier de Dieu. On peut bien dire à l'échéance de Dieu et non pas à l'échéance des hommes, ni de celui de Caïphe. Donc jusqu'ici, chers amis, chaque fois que les conspirateurs ont tenté de tuer Jésus, Dieu a toujours contrecarré leur plan. Maintenant qu'ils souhaitent attendre un moment plus propice pour agir, ils sont incapables de différer la date prévue à l'échéancier parfaite de Dieu. On peut dire, n'est-ce pas, j'ai mal prononcé, l'échéancier. Ça vient de l'échéance, évidemment. Comme je suis de langue allemande, ça pose parfois des problèmes. Donc, chers amis, Matthieu trace une esquisse émouvante qui révèle encore davantage le contrôle souverain qu'exerce Dieu sur les événements qui mèneront à la crucifixion. Une esquisse qui contraste violemment avec le complot qui se trame dans le palais du souverain sacrificateur. Là, il y a des hommes qui haïssent Jésus et qui méditent sur la manière de le faire périr. Ici, une femme qui l'aime le prépare à sa sépulture. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, voilà qu'une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre fabuleusement coûteux, qui renfermait un parfum de très grand prix. Et cependant qu'il était à table, cette femme répandit le parfum sur sa tête. Alors les disciples, voyant cela, s'indignèrent et ils dirent, mais à quoi bon cette perte colossale? On aurait pu vendre ce parfum très très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, et vous ne mourrez pas toujours non plus. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, et même dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Saint Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13. Si Matthieu rapporte cet événement précisément ici, c'est en raison du lieu, et plutôt du lien, qu'il y a entre celui-ci et le sujet de son récit. Donc, chronologiquement, toutefois, il s'inscrit plutôt dans le cadre, on peut bien le dire, dans le cadre des événements qui se sont produits lors du sabbat précédent. Notez Saint Jean chapitre 12, versets 1 à 3. Donc, lorsque Jésus se trouvait à Béthanie et à Bethphagé, en périphérie de Jérusalem, et là en train de préparer son entrée triomphale dans la ville, prévue pour le lendemain. Ce soir-là, Jésus et les disciples sont conviés à la table de Simon le lépreux. Ils sont donc invités à la table de Simon le lépreux. Or bien qu'on ignore tout de ce fameux Simon, sauf ce qui est écrit ici, il est évident qu'il s'agit de quelqu'un que Christ a guéri de la lèpre en son temps. Car personne souffrant encore de la lèpre ne pourrait donner un tel banquet, jamais. Donc, par cette soirée-là, Simon cherche probablement à témoigner sa gratitude envers le Seigneur pour la grâce énorme qu'il lui a faite. Décrivant le même événement, l'apôtre Jean nous informe que Marie, Marthe et Lazare y sont également présents. Marthe sert donc le repas et Lazare est assis à la table. Saint Jean chapitre 12 versets 1 et 2. Il ne fait aucun doute que les trois sont des amis de Simon, peut-être même des voisins immédiats, car ils sont également natifs de Béthanie. Et c'est Marie qui oint Jésus-Christ de parfum. Notez verset 3. Jean précise qu'elle oint non seulement sa tête, mais encore ses pieds, qu'elle essuie ensuite avec ses cheveux. Elle imite probablement ainsi, à dessein, la fameuse prostituée pardonnée qui est décrite dans Saint Luc chapitre 7 verset 36 à 39, qui avait aussi oint les pieds de Jésus d'une huile parfumée pour ensuite les essuyer de ses cheveux. Cette onction s'est produite en Galilée, dans la maison d'un pharisien, à une époque antérieure du ministère de Jésus-Christ. Aurait-on attaché aux pas de Jésus, Marie ne peut ignorer l'incident et elle est touchée de la pure adoration qui a poussé cette femme à pousser un tel geste. Elle a donc décidé de le poser à son tour, ainsi en employant le parfum le plus onéreux qu'elle puisse se procurer. Saint Jean chapitre 12 verset 5 et notez Saint Marc chapitre 14 verset 5 rapportent tous les deux que l'onction vaut tout de même 300 deniers, c'est-à-dire environ un an de salaire pour un ouvrier. C'est colossal, inimaginable. Marc précise que Marie a rompu le vase d'albâtre, qui est très très onéreux, selon le verset 3, qui contient donc ce parfum de très grand prix, rendant ainsi son geste sacrificiel d'autant plus généreux. Et bien sûr que les disciples s'indignent. Nous sommes que des hommes, n'est-ce pas? La libéralité de Marie, elle leur semble extravagante, incroyable. On pourrait dire aujourd'hui, il faut être complètement siphonné de dépenser une fortune pareille pour le verser sur la tête ou les pieds de quelqu'un. Après tout, ils se disent, ils auraient pu vendre le parfum pour en donner l'argent aux pauvres. Voilà donc ce qu'on dit parfois. Et quant à Saint Jean, il nous informe que cette opinion émane du fameux Judas, dont les motifs sont très loin d'être aussi noble qu'il voudrait le faire croire. Ils disent cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Saint Jean chapitre 12, verset 6. Il est donc significatif que Judas tienne les cordons de la bourse, car cela indique toute la confiance qu'il inspire. On peut dire qu'il paraît de inspirer aux autres, selon le psaume 41, verset 10. Du reste, par ailleurs, le fait que les autres abondent dans son sens révèle qu'il a su gagner non seulement leur confiance, mais également un grand respect. De toute évidence, aucun des disciples ne voit le traître en lui, puisque lorsque Jésus prophétisera que un d'entre eux va le trahir, pas un seul ne poindra Judas du doigt. Non, non, non. En fait, ils sembleront tous douter davantage d'eux-mêmes que de ce fameux Judas. Saint Marc, chapitre 14, verset 19. Le fait que Judas n'exprime pas devant Jésus son mécontentement concernant le geste de Marie est d'ailleurs typique chez lui. Selon saint Marc, les disciples discutent d'abord entre eux de la situation pour n'adresser leur grief à Marie que par la suite, et cela sous forme de réprimande tranchante. Saint Marc, chapitre 14, versets 4 et 5. Bien qu'ils tentent manifestement de cacher leur indignation à Jésus, celui-ci en est totalement conscient, ce qui l'amène à les reprendre pour avoir murmuré contre elle. Il leur a dit « Laissez-la !» Saint Marc, chapitre 14, verset 6. « S'il n'était Dieu fait chair, digne d'un tel acte d'adoration, et sur le point de mourir pour les péchés d'autrui, le reste de sa réplique pourrait paraître froid et inhumain, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Saint Matthieu 26, verset 11. Venant du Sauveur, eh bien ces paroles sont plutôt inhabituelles. Après tout, n'a-t-il pas commandé au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait pour le donner aux pauvres, selon saint Matthieu chapitre 19, verset 21. Certes, mais ici, voyez-vous, Jésus ne fait que rappeler une vérité contenue dans la loi de Moïse. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Et c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Tu ouvriras ta main aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Marie, qui s'est toujours montrée plus attentive à l'enseignement de Jésus-Christ que la plupart des autres, le comprend. Elle le comprend peut-être davantage qu'eux. De toute évidence, elle comprend que Jésus-Christ se trouve à un carrefour important de son ministère terrestre. Mais Dieu lui-même donne souverainement à son geste une signification symbolique, comme en témoignent les paroles de Jésus, en répandant ce parfum sur mon corps. Jésus dit, et l'a fait pour ma sépulture. Saint Matthieu chapitre 26, verset 12. Donc en cela, on peut voir encore, une fois de plus, la main souveraine de Dieu orchestrer tous les événements. Il se peut fort bien, oui, il se peut fort bien que la réprimande de Jésus à cette occasion-là vienne sceller le désillusionnement qu'il a cessé de croître en Judas. Et il est possible qu'il s'interroge sur l'identité messianique de Jésus. Bien sûr, ça c'est bien Judas. Il faut trouver absolument une raison à son geste épouvantable. Cela ajoute au fait qu'il se sert à même la bourse des disciples dont il a la responsabilité. C'est donc avec ressentiment qu'il voit des présents d'un si grand prix, une livre d'un parfum de nard absolument pur et un vase d'albâtre de grand prix, être sacrifié dans un geste de véritable adoration, et voyant disparaître les profits d'un détournement de fonds potentiel, il se peut que Judas décide maintenant, sur le coup, de se renflouer en venant vers Jésus pour vendre, on peut dire, pour vendre Jésus et de commettre maintenant un acte de trahison en livrant Jésus à ses ennemis. Il a tellement besoin d'argent, ce pauvre Judas. Luc précise que là, à ce moment-là, Satan, on peut dire les démons, entre dans Judas à peu près à ce moment-là, selon Saint Luc chapitre 22, verset 3. Profitant de la cupidité et du cœur non régénéré de Judas, qui a maintenant complètement rejeté Jésus, le diable est tout à fait en mesure de se servir de lui pour exécuter l'acte de trahison qui se produira sous peu. Or, en rejetant Christ définitivement, Judas s'abandonne lui-même violent, on peut dire volontairement, aux forces des ténèbres. Tout cela pour se faire l'outil de Satan. Et cela, Saint Matthieu le confirmera quand il dit dans Saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16, « Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, « Que voulez-vous me donner ? Alors je vous le livrerai. » Et ils lui ont payé 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. C'est Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16. Il se peut même que Judas se rende à la maison de Caïphe en ce moment même où le Sanhédrin s'y trouve pour comploter contre Jésus. De toute manière, comme les projets de trahison de Judas s'inscrivent parfaitement bien dans les leurs, ils évaluent et lui versent évidemment en un clin d'œil ce fameux prix de sa traîtrise, le prix de la trahison. Il s'agit là du prix d'un esclave, 30 sicles d'argent, selon Exode chapitre 21, verset 32, qui est le prix qui équivaut à environ 120 deniers, soit moins que la valeur du nard de notre chère Marie. Il se peut donc que Judas se leurre même en se disant qu'il redresse ainsi en quelque sorte un tort, s'étant convaincu que le geste de Marie était d'une extravagance absolument ridicule. Dès lors, Judas chercha l'occasion favorable pour trahir Jésus. Ayant déjà accepté de l'argent pour sa traîtrise, il s'est désormais irrévocablement engagé. Et maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est de choisir un moment où Jésus se trouve seul, ou presque, pour permettre au Sanhédrin de capturer Jésus en douce, comme il a projeté de le faire. Finalement, il décidera que le moment le plus propice serait lorsque Jésus se trouvera dans le jardin où il va souvent prier avec ses amis intimes. D'un point de vue terrestre, on dirait que les machinations des ennemis de Jésus commencent à se concrétiser à la perfection. Bien que seul Jésus en soit conscient, un plan supérieur est en train de se réaliser. Il s'agit du plan éternel d'un Dieu souverain, un plan établi avant même la fondation du monde. Or, depuis la conception même du complot, le fait que Dieu intervient souverainement se manifeste très clairement par toutes les prophéties qui s'accomplissent tandis que le drame se déroule en parfaite conformité avec les desseins éternels de Dieu. Ainsi, la première et la plus fondamentale des leçons à tirer de l'assassinat, on peut bien dire, de Jésus, c'est la vérité selon laquelle Dieu règne avec une souveraineté absolue sur absolument tout, même si les machinations les plus funestes des hommes, les hommes pécheurs, semblent être sur le point de remporter un sinistre succès. Vraiment, un sinistre succès. Chers amis, nous arrêtons notre étude, notre première étude, ici pour aujourd'hui, et nous n'avons plus le temps de dire grand-chose, mais nous pouvons tout de même faire ensemble une petite prière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Loué soit donc notre Seigneur Jésus-Christ à toujours. Ô Dieu, viens à notre secours. Hâte-toi de nous secourir. Ta parole dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Gloire soit donc au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme dès le commencement, aujourd'hui et à toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime et il est donc de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse avec tout mon amour et je vous dis, soyez bénis. Dieu vous aime. Et je vous aime. À demain matin pour la suite de cette série. Au revoir.